Club des poètes et Vive la poésie.
Alors maintenant, on va m'écouter moi, tiens. Je vais vous dire un ou deux poèmes, peut-être. Je vais vous dire un poème particulièrement misogyne. Je l'avais annoncé tout à l'heure, puis je suis parti dans des circonvolutions langagières ou verbales ou discursives. Et je me suis complètement perdu dans le labyrinthe de mon esprit, alambiqué. Je me souviens maintenant que j'avais dit que Baudelaire était misogyne, et voilà ce qu'il dit, un poème qui s'appelle « L'amour du mensonge ». Quand je te vois passer, ô ma chère indolente, au son des instruments qui se brisent au plafond, suspendant ton allure harmonieuse et lente, et répandant l'ennui de ton regard profond. Quand je contemple au feu du gaz qui le colore, ton front pâle, embelli par un morbide attrait, où les torches du soir allument une aurore, et tes yeux, attirants comme ceux d'un portrait, je me dis qu'elle est belle et bizarrement fraîche. Le souvenir, massif, royal et lourd de tour, la couronne et son corps meurtri comme une pêche et prêt comme son cœur pour le savant amour. Es-tu le fruit d'été aux saveurs souveraines? Es-tu vase funèbre attendant quelques pleurs? Parfum qui fait rêver aux oasis lointaines, oreiller caressant, ou corbeille de fleurs. Je sais qu'il est des yeux des plus mélancoliques, qui ne recèlent pas de secrets précieux, beaux écrins, sans joyaux, médaillons sans reliques, plus vides et plus profonds que vous-même, ô cieux. Mais ne suffit-il pas que tu sois l'apparence pour réjouir un cœur qui fuit la vérité? Qu'importe ta bêtise ou ton indifférence, masque ou décor, salut, j'adore ta beauté. Voilà, mais n'empêche que c'est pas gentil de dire ça à une femme. Alors, oui, je voulais vous faire écouter aussi quelque chose. Ah oui, maman me disait avec raison, on ne l'avait pas encore entendu. Alors, on va écouter maintenant quelque chose qui nous dit beaucoup du rapport de Baudelaire avec la réalité, avec la vie quotidienne, avec le commerce, avec les patrons de journaux, avec les éditeurs, avec et à quel point il était, comment dirais-je, quand il rentrait le soir chez lui, il avait l'impression qu'il s'était sali, en quelque sorte, en fréquentant les humains. Il faut le dire, je pense que beaucoup de poètes, au moins à un moment donné de leur vie, ont eu ce sentiment-là. Ça me rappelle un poème de mon père, dans lequel il dit cela, il dit que le passage dans la vie, dans l'existence terrestre, il aura eu le sentiment que ça l'a souillé. Mais bien sûr, il n'avait pas toujours ce sentiment-là. Alors, on écoute à 1h du matin. Il n'est pas tout à fait 1h du matin encore. Il n'a même pas minuit. Extrait des petits poèmes en prose ou Spleen de Paris, interprété par Marcel René, qui est dans la pièce à côté. Et ce poème-là, nous l'avons enregistré tout à l'heure, ici même, à la place où je suis.
À 1h du matin. Enfin seul, on n'entend plus que le roulement de quelques fiacres, attardés et éreintés. Pendant quelques heures, nous posséderons le silence, sinon le repos. Enfin, la tyrannie de la face humaine a disparu, et je ne souffrirai plus que par moi-même. Enfin, il m'est donc permis de me délasser dans un bain de ténèbres. D'abord, un double tour à la serrure. Il me semble que ce tour de clé augmentera ma solitude et fortifiera les barricades qui me séparent actuellement du monde. Horrible vie, horrible ville. Récapitulons la journée. Avoir vu plusieurs hommes de lettres dont l'un m'a demandé si l'on pouvait aller en Russie par voie de terre. Il prenait sans doute la Russie pour une île. Avoir disputé généreusement contre le directeur d'une revue qui à chaque objection répondait « C'est ici le parti des honnêtes gens », ce qui implique que tous les autres journaux sont rédigés par des coquins. Avoir salué une vingtaine de personnes, dont 15 me sont inconnues, avoir distribué des poignées de main dans la même proportion, et cela sans avoir pris la précaution d'acheter des gants. Être monté, pour tuer le temps, pendant une averse, chez une sauteuse qui m'a prié de lui dessiner un costume de Vénus. Avoir fait ma cour à un directeur de théâtre qui m'a dit en me congédiant « Vous feriez peut-être bien de vous adresser à Z. C'est le plus lourd, le plus sot et le plus célèbre de tous mes auteurs. Avec lui, vous pourriez peut-être aboutir à quelque chose. Voyez-le, et puis nous verrons. » M'être vanté, pourquoi ? De plusieurs vilaines actions que je n'ai jamais commises et avoir lâchement nié quelques autres méfaits que j'ai accomplis avec joie. Avoir refusé à un ami un service facile et donné une recommandation écrite à un parfait drôle. Ouf, est-ce bien fini ? Mécontent de tous et mécontent de moi, je voudrais bien me racheter et m'enorgueillir un peu dans le silence et la solitude de la nuit. Âme de ceux que j'ai aimés, âme de ceux que j'ai chantés, fortifiez-moi, soutenez-moi, éloignez de moi le mensonge et les vapeurs corruptrices du monde. Et vous, Seigneur mon Dieu, accordez-moi la grâce de produire quelques beaux vers qui me prouvent à moi-même que je ne suis pas le dernier des hommes, que je ne suis pas inférieur à ceux que je méprise.
Merci beaucoup à Marcel René pour cette très belle interprétation d'un poème que, d'une certaine manière, je crois que même si c'est un poème qui est très, très dur par rapport à la condition humaine, je pense qu'il nous arrive à tous, aux uns, aux unes et aux autres, de ressentir cela et de sentir que notre part d'enfance, cette part que nous essayons de protéger tout au long de notre parcours sur Terre, elle est bien malmenée par le quotidien parfois, et ce désir que Baudelaire a de transcender la grisaille du quotidien par la capacité d'accomplir de la beauté avec son stylo, avec sa plume, eh bien, c'est un bel exemple pour nous. Après tout, si nous ne trouvons pas que le monde est assez beau, au moins essayons, nous, de lui apporter un peu de beauté par ce que nous faisons. Alors, je voulais vous dire aussi que c'est frappant dans les rapports que Baudelaire a avec les femmes, que la plupart du temps, ça tourne au drame. Il y a à la fois une grande fascination, une grande admiration, une grande passion amoureuse, mais en même temps, il y a toujours sous-jacent, en filigrane ou en arrière-plan, quelque chose de terrible qui risque d'arriver toujours. Alors, on va voir ça, parce que il nous arrive à tous de croiser de belles femmes ou de beaux hommes, si vous préférez les beaux hommes. Moi, je suis plus sensible aux belles femmes qu'aux beaux hommes, mais c'est à vous de savoir ce que vous éprouvez de ce point de vue. Et il nous arrive à tous d'en croiser comme ça quand on dans la rue. Et c'est le cas de Baudelaire, c'est ce qu'il nous décrit maintenant. Il nous écrit aussi toute la tragédie émotive que cela provoque en lui, cette rencontre avec la beauté, dans le cours d'une journée tout à fait anodine. Et c'est Eva qui interprète pour nous à une passante.
La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil. Douleur majestueuse. Une femme passa d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble, avec sa jambe de statue. Moi, je buvais, crispé comme un extravagant. Dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté, dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te reverrai-je plus que dans l'éternité ? Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, ô toi que je s'aimais, ô toi qui le savais.
Voilà, c'était donc un poème que vous connaissez sans doute, parce que ça fait partie des poèmes les plus connus de Baudelaire. Je voulais vous lire encore un petit passage comme ça de cette belle préface qu'a faite Théophile Gautier au sujet de son grand ami Charles Baudelaire. Comme ça, ça va nous situer un petit peu... On n'a pas parlé beaucoup de sa biographie, et le faire en étant guidé par Théophile Gautier, qui est à la fois un grand poète et un ami intime de Charles Baudelaire, c'est intéressant. Charles Baudelaire est né à Paris le 21 avril 1821, rue Hautefeuille, dans une de ces vieilles maisons qui portaient à leur angle une tourelle en poivrière, qu'une édilité trop amoureuse de la ligne droite et des larges voies a sans doute fait disparaître. Il était fils de M. Baudelaire, ancien ami de Condorcet, et de Cabanis, homme très distingué, fort instruit, et gardant cette politesse du XVIIIe siècle que les mœurs prétentieusement farouches de l'ère républicaine n'avaient pas effacée autant qu'on le pense. Cette qualité a persisté dans le poète qui conserva toujours des formes d'une urbanité extrême. On ne voit pas qu'en ses premières années, Baudelaire ait été un enfant prodige et qu'il ait cueilli beaucoup de lauriers aux distributions des prix de collège. Il eut même assez de peine à passer ses examens de bachelier S-lettres, et il fut reçu comme par grâce. Troublé sans doute par l'imprévu des questions, ce garçon, d'un esprit si fin et d'un savoir si réel, parut presque idiot. Nous n'avons nullement l'intention de faire de cette inaptitude apparente un brevet de capacité. On peut être pris d'honneur et avoir beaucoup de talent. Il ne faut voir dans ce fait que l'incertitude des présages qu'on voudrait tirer des épreuves académiques. Sous l'écolier souvent distrait et paresseux, ou plutôt occupé d'autre chose, l'homme réel se forme peu à peu, invisible aux professeurs et aux parents. Voilà, c'était un extrait de Théophile Gautier, puis c'est intéressant parce que, à la fois, Gautier ne tombe pas dans le travers qui consiste à dire « Oui, tous les génies... » sont de très mauvais élèves, puisqu'il dit on peut très bien avoir le prix d'honneur et être un génie, et en même temps, il invite à considérer les premiers pas d'un enfant avec beaucoup de bienveillance, parce que nous ne savons pas ce qui est en train de mûrir en lui, et peut-être que cet enfant que nous trouvons peu doué pour les études ou peu attentif, eh bien un jour parviendra à construire une œuvre qui, comme c'est le cas de Baudelaire, fera de lui une des plus grandes plumes de la poésie française. Donc, il ne faut pas juger trop vite les premiers pas sur le chemin de la vie. Je voulais dire quelque chose aussi qui est intéressant de savoir, c'est que donc Baudelaire avait écrit à Victor Hugo pour lui présenter ses poèmes et les fleurs du mal. Et Hugo lui a répondu une lettre dans laquelle, en fait, il affirmait complètement le génie de Baudelaire. Il reconnaissait complètement le génie de Baudelaire. Et en fait, bon, ils étaient en désaccord l'un et l'autre, surtout sur la question du progrès. Parce que Baudelaire, lui, faisait profession de ne pas croire du tout au progrès de l'homme. Il croyait en quelque sorte, et c'est en cela que je vois en lui un poète profondément catholique, il croyait avec ferveur au péché originel et au fait que l'être humain était marqué par le péché et qu'il n'évoluait pas de ce point de vue-là. Alors que Hugo, lui, bien sûr, considérait qu'il fallait œuvrer pour l'amélioration à la fois de la vie, de la société et de l'être humain, en particulier par la culture, par donner accès à la culture. Et donc de ce point de vue-là, Baudelaire et Hugo étaient en désaccord, mais Hugo était très conscient du génie de Baudelaire, et je crois que Baudelaire l'était aussi, bien qu'à certains moments, de façon privée, il ait dit des choses un peu désagréables sur Hugo. Mais il lui a dédié un très beau poème qui s'appelle Le Cygne, et puis il lui a aussi, fait des éloges, et notamment dans un petit texte que mon père se plaisait à citer, Baudelaire disait que Hugo avait fait énormément pour l'éclosion d'un très grand nombre de jeunes poètes qui, sans lui, n'auraient sans doute jamais existé. Donc tout ça, c'était une manière aussi de réconcilier ces deux poètes dont parfois on voit l'un comme étant le moraliste et l'autre étant le poète diabolique. Mais non, les choses ne sont pas simples comme ça, et tous deux avaient reconnu l'un dans l'autre leur génie respectif. On va écouter maintenant Faustine, si je la retrouve, oui, qui va nous dire « L'aube spirituelle ».
Quand chez les débauchés l'aube blanche et vermeille entre en société de l'idéal rongeur, par l'opération d'un mystère vengeur, dans la brute assoupie un ange se réveille. Des cieux spirituels, l'inaccessible azur, pour l'homme terrassé qui rêve encore et souffre, s'ouvre et s'enfonce avec l'attirance du gouffre. Ainsi, chère déesse, être lucide et pur, sur les débris fumeux des stupides orgies, ton souvenir plus clair, plus rose, plus charmant, à mes yeux agrandis, voltige incessamment.
Voilà, c'était notre amie Faustine Ferrer, qui, en dehors du fait qu'elle est une très gracieuse interprète de la poésie, elle dit aussi un très beau poème de Rimbaud qui s'appelle « Alchimie du verbe ». Et c'est aussi une dessinatrice, et une peintre, et une poète, qui elle-même a placé résolument toute son existence sous le signe des arts. Voilà. Et il faut rendre grâce à tous ces jeunes gens qui, loin de vouloir faire carrière dans le commerce des armes, eh bien, ont décidé, par leur vie même, de nourrir le monde et de s'en nourrir aussi, par la beauté qu'ils peuvent exprimer par les arts qu'ils pratiquent. Alors, je vais vous dire encore un passage de Théophile Gautier. Tout à l'heure, je vous disais que un souvenir qui avait beaucoup marqué Baudelaire, c'était le fait qu'il était parti en voyage quand il était adolescent, parce que ses parents, et en particulier, enfin, son beau-père et sa mère, et en particulier son beau-père, souhaitait en quelque sorte le confronter à la vie, à la dureté de la vie, pour qu'il accepte de commencer à travailler véritablement à l'école. Ça n'a pas tellement bien fonctionné, mais Baudelaire en a rapporté des images et un amour pour les paysages et la beauté des femmes qu'il avait croisées dans ces contrées lointaines. Et le grand amour de sa vie, d'ailleurs, c'est Jeanne Duval qui, elle-même, était une jeune femme noire. Pour donner un autre cours à ses idées où il s'entêtait, on fit voyager Baudelaire. On l'envoya très loin. Embarqué sur un vaisseau et recommandé au capitaine, il parcourut avec lui les mers de l'Inde, vit l'île Maurice, l'île Bourbon, Madagascar, Ceylan peut-être, quelques points de la presqu'île du Gange, et ne renonça nullement pour cela à son dessein d'être homme de lettres. On essaya vainement de l'intéresser au commerce, le placement de sa pacotille l'occupait fort peu. Un trafic de bœufs pour alimenter de beefsteaks les Anglais de l'Inde ne lui offrit pas plus de charme. Et de ce voyage au long cours, il ne rapporta qu'un éblouissement, splendide, qu'il garda toute sa vie. Il admira le ciel où brillent des constellations inconnues en Europe. Cette magnifique et gigantesque végétation au parfum pénétrant, ces pagodes élégamment bizarres, ces figures brunes aux blanches draperies, toute cette nature exotique, si chaude, si puissante et si colorée, et dans ses vers de fréquente récurrence le ramène des brouillards et des fanges, de Paris vers ces contrées de lumière, d'azur et de parfums. Au fond de la poésie la plus sombre souvent s'ouvre une fenêtre, par où l'on voit au lieu des cheminées noires et des toits fumeux, la mer bleue de l'Inde, ou quelques rivages d'or que parcourent légèrement une svelte figure de malabarèse demi-nue, portant une amphore sur la tête. Sans vouloir pénétrer plus qu'il ne convient dans la vie privée du poète, on peut supposer que ce fut pendant ce voyage qu'il prit cet amour de la Vénus noire pour laquelle il eut toujours un culte. Voilà, ça c'était Théophile Gautier, donc, qui parlait de Charles Baudelaire. Et je dois dire que je suis très touché par la délicatesse de leur rapport, de leur relation. Vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, que Baudelaire a toujours rendu hommage. C'est à lui qu'il a dédicacé les Fleurs du Mal. Il lui a écrit une très belle lettre aussi au moment où il était en train d'écrire les poèmes du Spleen de Paris. Et c'était des personnes qui avaient, l'un envers l'autre, beaucoup de délicatesse et beaucoup d'élégance dans leur relation. Et je trouve ça que c'est exemplaire. Ça devrait nous donner exemple, cette manière de concevoir les relations humaines. Alors, après ça, j'avais pensé vous faire écouter Walid, qui va nous dire un poème qu'il interprète souvent au Club des Poètes. C'est un jeune homme qui étudie à Paris.
Avec ses vêtements ondoyants et nacrés, même quand elle marche, on croirait qu'elle danse. Comme ces longs serpents que les jongleurs sacrés du bout de leurs bâtons agitent en cadence, comme le sable morne et l'azur des déserts, tous deux insensibles à l'humaine souffrance. Ses yeux polis sont faits de minéraux charmants, et dans cette nature étrange et symbolique où l'ange inviolé se mêle au sphinx antique, où tout n'est qu'or, argent, lumière et diamant, resplendit à jamais comme un astre inutile, la froide majesté de la femme stérile.
C'est très curieux, hein, parce que ce poème-là se termine par... qui est une élégie, qui est un poème de célébration et d'amour, se termine par la froide majesté de la femme stérile. Donc c'est par quelque chose qui est assez dur à entendre, mais il y a toujours cette tension-là dans la poésie de Baudelaire, et on le verra tout à l'heure parce qu'on écoutera son poème qui s'intitule « La beauté » interprété par ma chère amie Maouena, et vous verrez que l'image qu'il donne de la beauté, c'est toujours quelque chose d'assez dur, d'assez froid, on n'y voit pas courir d'enfants, on n'y voit pas... tout est minéral, il y a rarement... dans son image de la beauté, c'est très rarement des personnes humaines qui en font partie. Donc on peut dire que c'est la beauté qui va interpréter la beauté, mais vous verrez qu'il ne s'agit pas du tout d'une même manière d'être belle, parce que notre amie Maouena n'est pas un rêve de pierre, elle est faite de belle chair. Alors, Ah voilà, Maouena, qui est une grande amoureuse de poésie et qui nous dit souvent aussi des poèmes de René Char. Et l'autre fois, au Club des Poètes, elle nous a dit un poème de Alexandre Pouchkine.
Je suis belle, ô mortelle, comme un rêve de pierre. Et mon sein, où chacun s'est meurtri tour à tour, est fait pour inspirer au poète un amour, éternel et muet, ainsi que la matière. Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris. J'unis un cœur de neige à la blancheur des cygnes. Je hais le mouvement qui déplace les lignes, et jamais je ne pleure, et jamais je ne ris. Les poètes, devant mes grandes attitudes, que j'ai l'air d'emprunter aux plus fiers monuments, consumeront leurs jours en d'austères études. Car j'ai pour fasciner ces dociles amants de purs miroirs qui font toutes choses plus belles, mes yeux, mes larges yeux aux clartés éternelles.
Quoique tes sourcils méchants te donnent un air étrange, qui n'est pas celui d'un ange, sorcière aux yeux alléchants, je t'adore, ô ma frivole, ô ma terrible passion, avec la dévotion du prêtre pour son idole. Le désert et la forêt embaume tes tresses rudes. Ta tête a les attitudes de l'énigme et du secret. Sur ta chair le parfum rôde comme autour d'un encensoir. Tu charmes comme le soir, nymphe ténébreuse et chaude. Ah, les filtres les plus forts ne valent pas tes paresses. Et tu connais la caresse qui fait revivre les morts. Tes hanches sont amoureuses de ton dos et de tes seins, et tu ravis les coussins par tes poses langoureuses. Et quelquefois, pour apaiser ta rage mystérieuse, tu prodigues sérieuse la morsure et le baiser. Tu me déchires, ma brune, avec ton rire moqueur, et puis tu mets sur mon cœur ton œil doux comme la lune. Sous tes souliers de satin, sous tes charmants pieds de soie, moi je mets ma grande joie, mon génie et mon destin, mon âme par toi guérie, par toi lumière et chaleur, explosion de couleurs dans ma noire Sibérie. Voilà, c'était Chanson d'après-midi, de Charles Baudelaire, bien sûr. Et on s'achemine petit à petit vers la fin de cette rencontre autour de Baudelaire. Mais il y a encore des choses que je veux vous faire connaître. Alors ça, bien sûr, c'est un poème qu'on peut pas rêver une soirée Baudelaire sans dire ce poème-là, bien sûr. C'est le poème que vous avez tous appris à l'école et qui décrit les souffrances du poète et son inadaptation au monde terrestre d'une manière qui, pour moi, fait de cette vision qu'a Baudelaire du poète une vision christique, parce que le poète est vraiment celui dont le royaume n'est pas de ce monde.
Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé, qu'il est gauche et vole, lui naguère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher.
Et Baudelaire a dit un petit peu la même chose en prose. Et c'est ce que... C'est Théophile Gautier qui cite cela, donc dans cette fameuse préface qui nous accompagne depuis le début de cette soirée, parce que j'ai trouvé que c'était intéressant d'être accompagné par Théophile Gautier. Alors, voilà, on écoute Baudelaire, là, qui est cité par Gautier. C'est cet admirable, cet immortel instinct du beau qui nous fait considérer la terre et ses spectacles comme un aperçu, comme une correspondance du ciel. La soif insatiable de tout ce qui est au-delà et que voile la vie est la preuve la plus vivante de notre immortalité. C'est à la fois par la poésie et à travers la poésie, par et à travers la musique, que l'âme entrevoit les splendeurs situées derrière le tombeau. Et quand un poème exquis amène les larmes au bord des yeux, ces larmes ne sont pas la preuve d'un excès de jouissance. Elles sont bien plutôt le témoignage d'une mélancolie irritée, d'une postulation de nerfs, d'une nature exilée dans l'imparfait et qui voudrait s'emparer immédiatement sur cette terre même d'un paradis révélé.
C'était « Et vive la poésie », l'émission hebdomadaire du Club des poètes. Et pour terminer, quelques mots du fondateur Jean-Pierre Ronet.
Bonsoir amis, bonsoir, qui que vous soyez, où que vous soyez, si vous avez quelque chose sur le cœur, quelque chose qui passe difficilement, écrivez-moi tout de suite comme on écrit à un ami, et nous serons peut-être un peu moins seuls. Bonsoir, à la semaine prochaine, et vive la poésie.